Europe 1. C'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Professeur d'histoire et, je le disais tout à l'heure, observateur passionné de la vie publique américaine et le Covid-19 aux États-Unis, c'est à la fois une tragédie terrible, une épidémie qui galope, déjà plus de 8000 morts, dont près de la moitié dans l'État de New York, mais aussi un phénomène politique étonnant et passionnant. C'est le populisme trumpiste confronté au réel, plongé dans la crise, où l'on voit un président américain qui fait l'inverse de ce qu'on attend d'ordinaire d'un leader en temps de crise, c'est-à-dire le sérieux, la hauteur de vue, la cohérence, l'anticipation et l'empathie, l'attention aux autres, sans perdre pour l'instant de popularité dans sa base électorale. Comment regardez-vous ce phénomène politique très particulier ?
La première chose qu'on peut dire, effectivement, c'est que Donald Trump continue la politique comme il l'a toujours fait, avec deux aspects essentiels. Premièrement, une gestion qui reste très partisane, c'est-à-dire que par exemple, il n'hésite pas à mettre en cause violemment certains gouverneurs démocrates. On peut penser à gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer qu'il a attaqué plusieurs fois très 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 violemment. On voit là donc sa volonté toujours de cliver, de désigner des responsables dans le camp d'en face. Il ne cherche absolument pas à être dans le consensus comme c'est normalement la tradition dans ces périodes de crise. Deuxième aspect qui, là aussi, et comme toujours avec lui, c'est la grande méfiance qu'il exprime envers les sachants, envers les scientifiques. On le voit, on l'a encore vu hier soir par exemple, quand il n'a pas pu s'empêcher de reprendre à la volée le docteur Fauci, le grand médecin épidémiologiste qui l'assiste durant la crise, et il lui a dit non mais peut-être qu'on pourra quand même revenir au plus vite sur les mesures de distanciation sociale, mais là encore
on ne va pas détruire notre pays, a dit Trump à ce moment-là,
exactement.
Dans cette intervention.
Exactement, mais encore une fois, c'est la politique comme il l'a fait depuis 4 ans, d'abord comme candidat, puis comme président. Et pour lui, on le voit bien, il gère le coronavirus comme il a géré tout le reste. Il ne bouge pas d'un iota.
Et c'est effectivement très, très troublant. On va reparler de Trump, Corentin Célin, mais il faut d'abord s'intéresser à ce que vivent les Américains aujourd'hui, parce que c'est une crise qui jette brutalement des millions de gens dans la précarité, hein.
Oui, absolument. Donc il faut se rendre compte que lors des 2 dernières semaines, il y a 10 millions d'Américains qui se sont inscrits pour toucher les assurances chômage. 10 millions, c'est bien plus élevé que lors de la grande récession de 2008. C'est un chiffre jamais vu. On est vraiment... On a vu aussi, par exemple, hier, des queues de plusieurs kilomètres de voitures qui attendaient pour aller à la banque alimentaire. Parce que, il faut le rappeler, aux États-Unis, quand... vous avez un emploi, très souvent, pour plus d'un Américain sur deux, vous avez aussi une assurance santé qui vous est fournie par votre employeur. Donc quand vous êtes au chômage, vous perdez tout. Vous perdez votre emploi et vous perdez aussi votre assurance santé. Et donc on a des centaines de milliers d'Américains qui sont en train de basculer dans la pauvreté, qui dépendent déjà des banques alimentaires. Et on voit bien donc le choc que représente déjà le coronavirus pour la société américaine.
On n'est pas sûr d'ailleurs que les malades hospitalisés ne reçoivent pas ensuite une facture du système de santé ou de l'hôpital, hein.
Oui, absolument, car il faut rappeler, et ça c'est vraiment très spécifique aux États-Unis, les États-Unis sont la seule grande démocratie industrialisée qui n'a pas d'assurance santé universelle et encore moins d'assurance santé universelle et publique. Et donc, bien sûr, les gens qui seront en situation de détresse seront soignés, mais, et c'est déjà le cas, recevront ensuite des additions médicales qui peuvent monter à plusieurs dizaines de milliers de dollars, et on se demande bien qui les paiera. Et vraiment, les États-Unis aujourd'hui payent en quelque sorte ce choix historique qu'ils ont fait il y a très longtemps de ne pas avoir une assurance santé universelle.
Des Américains qui, de surcroît, n'ont pratiquement pas, pour les classes les plus modestes ou même les classes moyennes, qui n'ont pratiquement pas d'épargne de précaution et n'ont pas d'argent de côté pour en cas de coup dur. Donc, on a vraiment une situation qui peut être tragique sur le plan social et humain, hein.
Oui, absolument. On redécouvre aussi un aspect qui est central de l'économie américaine. C'est une économie qui fonctionne sur le crédit, qui fonctionne sur l'endettement. L'endettement public, ça, on le sait, l'endettement fédéral, mais aussi sur l'endettement des ménages. Effectivement, et depuis la grande récession de 2008, rien n'avait changé. Hein, de ce point de vue, tout était en quelque sorte, malgré des garde-fous supplémentaires, reparti sur cette notion de consommation par l'endettement des ménages. Et évidemment, à chaque choc, et là le coronavirus est un choc majuscule, eh bien on se retrouve avec des ménages qui sont surendettés, qui n'ont pas les moyens de dégager des capacités d'achat, j'allais dire, de première nécessité.
Pour ce qui marche pour le système de santé, pour les hôpitaux, la situation des hôpitaux, quelle est celle des hôpitaux américains? On a vu qu'il y avait des pénuries aussi, et peut-être par endroits plus cruelles encore que celles des hôpitaux français. On l'a vu y compris sur les hôpitaux new-yorkais. Et puis on a vu que la chasse aux masques se faisait à coups de dollars sur le tarmac des aéroports chinois.
Oui, alors... Ce qui est très frappant quand on regarde de France, c'est qu'en fait, les critiques, qui sont aussi là-bas aux États-Unis très violentes, de la presse, de la population quand elle est interrogée, sont exactement les mêmes que celles qu'on connaît en France. C'est-à-dire qu'on reproche, premièrement, à l'État fédéral de ne pas avoir constitué des stocks stratégiques suffisants. Et on voit bien effectivement que l'État fédéral, donc l'administration Trump, a du mal à fournir tous les États locaux en masques, en ventilateurs. Hier, on a eu une scène quand même assez extraordinaire. Donald Trump avait dit « Mais nous, on peut pas donner à tout le monde, on n'en a pas assez hein, dans notre stock. » Et hier, le gouverneur de New York, Cuomo, a été obligé d'annoncer qu'il allait recevoir 1000 ventilateurs de Chine. On avait un peu l'impression que la Chine se substituait à un État fédéral américain qui n'avait pas préparé. On a aussi, et vous le rappeliez, une très forte critique sur les masques. Il n'y a pas assez de masques. Aux États-Unis aussi, la grande discussion de ces 48 dernières heures, c'est fabriquez-vous un masque de fortune vous-même parce qu'il n'y a pas assez de masques pour tout le monde. Et Donald Trump, d'ailleurs, s'en est pris assez violemment à la firme 3M, qui est la grande fabricante américaine de masques aux États-Unis, parce qu'il lui reproche en quelque sorte d'en donner trop à l'extérieur et pas assez aux États-Unis. Et donc on voit, et c'est très frappant, exactement les mêmes carences qui sont soulignées actuellement dans la gestion de la crise aux États-Unis qu'on le voit en France.
Et sur les achats de masques sur les pistes d'aéroports, on en a parlé aux États-Unis
Ah oui, justement, oui, on en parle parce que il se passe exactement, mais alors là, multiplié par 50, parce qu'il faut pas oublier qu'on a 50 États locaux auxquels Trump a dit débrouillez-vous, nous l'État fédéral, on peut pas tout vous fournir, donc si vous devez vous fournir des masques, allez en acheter. Donc en fait, on a l'État fédéral qui passe des commandes, mais on a aussi les autorités locales, les 50 États, mais aussi des municipalités. Et évidemment, ça crée une demande colossale, en particulier sur le marché chinois, de masques. Et on se bat à coups de dollars. Par exemple, il y a un État comme le Maine qui a connu un peu ce qu'ont connu certains États européens, c'est-à-dire qui a passé des commandes. Et puis, finalement, les commandes ne sont pas nécessairement arrivées parce qu'il y en a certains qui payent plus cher sur le tarmac. On a exactement la même conversation, sauf qu'elle est multipliée par 50 parce qu'on a 50 États qui doivent en quelque sorte se débrouiller pour pouvoir acheter des masques à l'extérieur, et en particulier en Chine, où c'est le premier marché de fourniture du masque.
Corentin Célin, on continue d'explorer la situation américaine et la situation politique, parce qu'on est en année présidentielle, il faut le rappeler, avec vous dans un instant.
Europe 1. Patrick Cohen reste avec vous en cette période de confinement, en direct de chez lui pour cette arrivée demain.
Avec le professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, et à propos de Donald Trump, on l'a dit, dans la crise, mais toujours en campagne, Corentin Célin, plus que jamais en campagne pour sa réélection.
Oui, alors absolument, il ne perd pas de vue la campagne électorale, il ne rate jamais une occasion de critiquer les démocrates, que ce soit Joe Biden, qui est toujours affublé du surnom Joe l'endormi, ou les gouverneurs démocrates des États locaux qu'il critique vraiment de manière extrêmement virulente. Il est dans une gestion extrêmement partisane, et par ailleurs, ce qui est d'ailleurs aussi assez singulier, il ramène toujours tout à lui dans la gestion de la crise. S'il a dû finalement reconnaître maintenant la gravité hein, face au nombre de morts, il s'est lancé dans une sorte de comptabilité assez surprenante, de comptabilité macabre, en disant « Bon, si on arrive à limiter à 100 000 morts, c'est vraiment que j'aurais fait et qu'on aura fait du très bon boulot. » Un petit peu comme si ça devait être un argument électoral. Donc on voit effectivement que la gestion est à la fois partisane et électorale de la crise.
Et complètement erratique, on l'a dit. Titre qui barre toute la une du Washington Post ce matin. 70 jours de déni, de retard et de dysfonctionnement. Et évidemment, les vidéos publicitaires ou politiques ou pas qui compilent les différentes déclarations de Trump au fil de la crise sont floresses sur les réseaux sociaux et sur les télévisions, puisque au départ, le virus ne devait pas passer par les États-Unis, c'est ce qu'il avait dit au tout début, hein, Corentin Sélarin.
Oui, alors c'est un petit peu le problème parce que il n'a pas simplement cherché, comme l'ont fait beaucoup d'autres chefs d'État, à rassurer, à ne pas affoler. Il a été comme toujours, mais c'est sa personnalité. Il a été extrêmement affirmatif. Il a dit en particulier, et ça c'est une phrase qui commence à lui revenir extrêmement en boomerang, que en avril, avec le printemps, avec la chaleur, le virus disparaîtrait. Or, on voit bien que là, et lui-même même le dit maintenant, le virus va connaître son pic, son plateau, là, durant le mois d'avril aux États-Unis. Et évidemment, c'est toujours cette volonté qu'il a de commander aux événements, d'être dans l'affirmation de soi le plus souvent, et qui, évidemment, là, dans une crise où il faut être extrêmement prudent et se plier à la vie scientifique et médicale, ce que lui n'arrive pas beaucoup à faire, eh bien, évidemment, là, ça ne fonctionne plus, même si, il faut toujours le rappeler, pour l'instant, sa base lui reste éperdument fidèle.
Donald Trump, qui ne perd pas de vue son agenda politique et ses règlements de compte, il vient de limoger le responsable du renseignement impliqué dans sa mise en accusation dans l'affaire ukrainienne, Atkinson, c'est lui qui avait transmis la plainte d'un lanceur d'alerte au Congrès. Et Trump a aussi profité de la crise pour abroger les normes de réduction de CO2 imposées par Obama à l'industrie automobile. C'est passé complètement inaperçu. Enfin, ce serait passé complètement inaperçu si Obama n'était pas sorti de sa réserve de façon spectaculaire en faisant un communiqué assez cinglant contre son successeur. Hein.
Oui, absolument. C'est vraiment très particulier le fait que Obama ait fait un tweet puis une déclaration publique pour dénoncer.
Ah, Corentin Sélin, on vous a perdu. Est-ce que la régie peut me dire si on a une chance de le retrouver? Et j'attends les indications de la régie. Non, c'est pas pour tout de suite. Alors on va passer une courte promotion, comme on dit, pour l'antenne. Et puis on va explorer encore pour quelques minutes la situation américaine avec Corentin Sélin. À tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Toujours avec Corentin Sélin pour parler des États-Unis et de la gestion Trump. Corentin Sélin, avant de vous perdre, vous nous parliez d'Obama qui, dans une réaction tout à fait inhabituelle, avait sévèrement critiqué son successeur Donald Trump.
Oui, absolument. Mais c'est cette réaction d'Obama, à la fois par tweet et par déclaration publique, qui est complètement hostile à la tradition de respect entre président et ancien président, nous montre que Trump et les gouverneurs conservateurs républicains poursuivent pendant la crise du coronavirus l'application de leur agenda. Non seulement Trump a effectivement supprimé les règles d'efficacité énergétique d'Obama pour les automobiles, mais il a aussi refusé de rouvrir le marché d'Obamacare pour les assurances santé pour les gens qui venaient de perdre leur emploi à cause du coronavirus, en disant « moi je veux continuer à supprimer Obamacare, on va aller jusqu'à la Cour suprême pour essayer d'obtenir enfin la suppression d'Obamacare et je n'appliquerai donc pas cette loi ». Dans les États locaux, ça c'est très important, les gouverneurs du Sud et du Midwest républicains ont banni l'avortement sous prétexte que l'avortement n'était plus prioritaire en période de coronavirus, qu'il fallait réserver le matériel médical au coronavirus, on voit qu'il y a une poursuite de l'agenda conservateur radical de Trump et des Républicains, y compris pendant la période du coronavirus, et toujours aussi avec l'idée d'aller en novembre sur la réalisation parfaite de cet agenda.
Avortement, effectivement, interdit désormais au Texas, vous avez bien fait de le souligner. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur le plan électoral avec un président à la fois vulnérable à cause de la crise, mais omniprésent, et un challenger démocrate, Joe Biden, invisible et quasi inaudible. Il est confiné chez lui et sans aucune prise sur les décisions, sur la crise actuelle. Ça peut déboucher sur quoi ?
Alors, c'est la grande inconnue. Pour l'instant, il faut attendre. Tout dépendra, en fait, du bilan final. On voit dans les dernières enquêtes d'opinion qu'il commence à y avoir un doute quand même dans l'opinion sur ce qu'a fait Trump. En tout cas, il est beaucoup moins apprécié, par exemple, que les gouverneurs locaux, que les responsables locaux, dont la réponse au coronavirus est beaucoup plus saluée dans les études d'opinion. Mais tout dépendra du bilan. Là, si l'on poursuit sur l'envolée des cas de contamination et aussi malheureusement sur l'envolée du nombre de décès que l'on constate, plus cette crise s'aggravera, plus il sera difficile pour Trump d'avoir un récit positif pour lui politique sur cette crise. Donc tout dépendra du bilan final et on peut dire que plus la crise s'aggrave, plus il est difficile pour Trump d'aller contre les faits, d'aller contre la réalité et d'imposer, comme il a réussi toujours à le faire jusqu'ici, un récit politique favorable pour lui.
Merci beaucoup, Corentin Célin. Je signale qu'on peut lire vos chroniques sur le site Les Jours. Merci à vous.
Merci. Europe 1.